et capitaliste et qui nous invite à acheter la rue de la pêche, je crois pas. Mais dans tous les cas, on trouve dans la Bible un principe qu'on trouve dans le Monopoly qui est de multiplier quelque chose qu'on a au départ. C'est un principe biblique que de multiplier ce qu'on a entre les mains. Donc quelque part, on n'est pas appelé à faire du Monopoly, mais je trouvais ce parallèle-là intéressant. Et notamment, la Bible en parle dans la parabole des talents, qui est dans Matthieu 25, hein, des talents qui sont confiés aux serviteurs. Alors, on la lit souvent un peu vite, cette parabole. On va s'y plonger peut-être un peu plus en détail ce matin. Mais dans les grandes lignes, ce qu'on entend souvent de cette parabole, c'est qu'il y a, un maître exigeant, hein, pour le moins. Un maître exigeant, il y a des serviteurs qui sont plus ou moins efficaces. Il y a une condamnation pour le dernier qui a rien rapporté de plus. Et il y a l'enrichissement du premier qui avait en plus que les autres au départ. Alors là, est-ce que c'est une ode au capitalisme? Je ne sais pas. Mais dans tous les cas, cette parabole, elle est dans la Bible. Et c'est intéressant de savoir si elle est là, c'est que Dieu veut qu'on la lise. On n'est pas là pour retrancher certaines choses. Et donc j'aimerais qu'on regarde et qu'on comprenne ce matin pourquoi cette parabole, elle est dans la Bible. Pourquoi est-ce que dans cette parabole, on a un Dieu monopoly? Pourquoi est-ce qu'on a un Dieu monopoly à cet endroit-là qui nous invite à multiplier et qui est exigeant sur le fait qu'on porte du fruit? Donc cette parabole, j'aimerais vous proposer qu'elle soit centrale en vérité dans notre vie chrétienne. Elle est centrale. Et je vous propose de considérer ce matin que le maître apparemment exigeant, et j'insiste sur le apparemment exigeant, c'est Jésus. Et les serviteurs, ou les fils, hein, dans cette parabole-là, sont les serviteurs, on va dire que ce sont nous. Okay, et puis on va lire cette parabole-là comme ça. Mais ce que je veux dire avant tout, c'est que dans cette parabole, il est question de la fidélité avec laquelle on gère ce que Dieu a placé entre nos mains. D'accord ? Il n'est pas question d'une condamnation, il n'est pas question de récompenser les meilleurs, il est question de ma fidélité vis-à-vis de ce que Dieu a placé entre mes mains. Alors juste, je fais une parenthèse. Cette parabole de Jésus, elle est donnée à un moment donné où il nous parle de la fin des temps. Hein, il nous parle des 10 vierges, il nous parle de la parabole des talents, et puis il nous parle ensuite clairement du jugement dernier. Donc c'est vraiment une parabole qui s'inscrit dans le retour de Christ. Et comment Christ revient? Comment Jésus revient? Et c'est intéressant, ça fait un peu peur de réaliser que dans ce contexte-là, il y est question de rendre des comptes. Et je ne sais pas vous, mais moi, ça m'a fait un peu trembler de me dire « j'ai des comptes à rendre à Dieu. J'ai des comptes à rendre. » Ça ne rassure pas, quelque part, de se dire « j'ai des comptes à rendre. Jésus revient, j'ai des comptes à rendre. » Ça ne rassure pas. Mais pourtant, qu'on se souvienne de tout ce qu'on a entendu ce matin. On a un Père d'amour, on a un Père de grâce, on a un Père de gloire. Et on va regarder justement sur quoi on est censé rendre des comptes. Qu'est-ce que ça veut dire, rendre des comptes? Est-ce que c'est quelque chose qui m'écrase et qui m'accable, ou est-ce que c'est une promesse? Donc retenez juste là que cette idée qu'on est redevable devant Dieu des dons qu'il nous fait, et puis on verra par la suite ce que ça veut dire. J'aimerais citer ce verset-là de Jacques 1,17 qui nous dit que tout cadeau de valeur, tout don parfait nous vient d'en haut, du Père des Lumières. Tout don parfait, tout cadeau excellent nous vient du Père des Lumières. C'est lui qui donne, c'est lui qui donne avec abondance. Alors, pourquoi est-ce que je vous parle de cette parabole ce matin? C'est parce que j'ai trouvé que, de manière assez intéressante, elle est absolument symétrique au passage de Jean 15 sur le cep et les sarments. Et j'avais jamais vu à quel point la parabole des talents peut être symétrique à ce thème qu'on est en train de développer depuis le début de l'année, du cep et des sarments. Alors si vous voulez, avant de passer sur cette parabole, on va juste reciter quelques versets de ce passage de Jean 15 où Jésus nous dit « Je suis le cep, vous êtes les sarments ». Donc voilà ce qu'il nous dit, Jean 15, j'ai pris des versets 4 et 6 et puis le verset 11. « Demeurez en moi et moi, je demeurerai en vous. Un sarment ne saurait porter du fruit tout seul sans demeurer attaché au cep. » Il en est de même pour vous. Si vous ne demeurez pas en moi, vous ne pouvez porter aucun fruit. Je suis le cep de la vigne. Et vous en êtes les sarments. Chacun à sa place. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure portera du fruit en abondance, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, on le jette hors du vignoble, comme les sarments coupés. Ils se dessèchent, puis on les ramasse. On y met le feu et ils brûlent. Et on saute au verset 11. Tout cela, je vous le dis, pour que la joie qui est la mienne vous remplisse, vous aussi, et qu'ainsi votre joie soit complète. Ouf, c'est pour notre joie. Alors qu'est-ce qu'elle nous dit ? Qu'est-ce qu'il nous dit ce passage de Jean 15 ? Il nous parle d'un cep et des sarments. Il nous parle d'une transmission de la sève, du cep, qui est donnée aux sarments pour que ces sarments portent du fruit. Donc un cep et des sarments. C'est la sève du cep hein, qui alimente les sarments. Ce passage, il nous parle d'une promesse de fruits abondants si on est attaché au cep. Et il nous parle d'une grande joie partagée. Donc il nous parle de multiplication, il nous parle de fruits et il nous parle de joie. Ça, c'est une promesse. Et il nous parle aussi d'une séparation et de mort s'il n'y a pas de fruits. Et j'aimerais juste insister là maintenant sur quelque chose. Oui, il y a une promesse de fruits abondants. Oui, il y a une promesse de joie pour celui qui est attaché au cep. Il n'y a pas une promesse de mort pour celui qui ne s'y attache pas. Il y a une conséquence de non-vie pour celui qui ne s'y attache pas. Et ça, ça fait toute la différence. Notre Dieu n'est pas celui qui promet la vie ou la mort. Il n'est pas celui qui rétribue par la vie ou par la mort. Il est celui qui rétribue par l'abondance, qui rétribue par la vie, qui rétribue par la grâce. Mais si je me tiens en dehors de ça, alors je me tiens en dehors de la vie, parce qu'il n'y a pas de vie en dehors de Christ. Donc voyez, dans cette parabole, cep, sarment, d'accord, une sève qui est transmise, une promesse de fruit, une promesse de joie et une conséquence de séparation, une conséquence de mort quand il n'y a pas de fruit. Et maintenant, si on regarde en détail la parabole de Matthieu 25, du verset 14 à 30, qu'est-ce qu'elle nous dit ? Il en sera comme d'un homme qui partit pour un voyage. Il convoqua ses serviteurs et leur confia l'administration de ses biens. Alors, c'est intéressant déjà de regarder que dans ce passage, on insiste sur le fait que les biens appartiennent toujours au maître. Les biens n'appartiennent pas aux serviteurs. On n'est pas là dans un don, on est là dans quelque chose qui est confié en gestion. On confie l'administration des biens du maître. On ne devient pas propriétaire des biens-là. Et pour moi, c'est une marque de confiance. Est-ce qu'on connaît beaucoup de personnes aujourd'hui capables de laisser les clés de leur boîte aux employés en disant « je vous fais confiance, je vous demande de faire fructifier cette entreprise, je vous demande de la... » Il y en a qui connaissent ça, tu as connu ça, je crois. Mais ce n'est pas la norme aujourd'hui. Il n'y a pas cette confiance-là. Donc c'est véritablement une marque de confiance. Mais c'est bon de se rappeler aussi de la même manière que nous avons un héritage du royaume qui est en nous, le royaume de Dieu ne nous appartient pas. Il appartient à Dieu. Et nous sommes gestionnaires des dons qu'il nous fait aujourd'hui, mais ça ne nous appartient pas. Ça lui appartient à lui. Donc il leur confie, cet homme-là, l'administration de ses biens. Il remit à l'un, alors on appelle ça la parabole des talents, la version que j'ai choisie, on parle de lingots. Ce sera plus facile à comprendre peut-être pour nous d'ailleurs. Il remit à l'un 5 lingots, à un autre 2, à un troisième 1 seul, en tenant compte des capacités personnelles de chacun. J'ai souvent, je ne sais pas si c'est votre cas, j'ai souvent lu cette parabole vite et je ne me suis pas arrêté sur le fait que le maître y tenait compte des capacités personnelles de chacun. Et ça, c'est hyper important. Parce qu'on est français, on a envie de crier à l'injustice, on a envie de crier au fait que je ne démarre pas le Monopoly avec un qui a 150 000 euros et puis l'autre qui en a 15 000. Ce n'est juste pas possible. Sinon, les dés sont joués d'avance. D'accord ? Mais là, on n'est pas au Monopoly. Et le maître tient compte des capacités de ses serviteurs, des capacités personnelles. Et ce n'est pas une question d'inégalité, c'est une question de ne pas mettre une charge trop grande sur les gens. Jésus promet qu'on ne sera jamais tenté au-delà de nos forces. Il promet que le fardeau est léger. Et nous sommes appelés à grandir, nous sommes appelés à croître en stature, nous sommes appelés à porter de plus en plus de choses. Mais Jésus ne nous chargera jamais de quelque chose que nous ne sommes pas capables de gérer. Et ça, c'est important. On ne doit pas être écrasé sous nos responsabilités, écrasé sous nos dons, écrasé sur, je ne sais pas, ce que les hommes peuvent mettre des fois sur nos épaules. Jésus promet que c'est léger. Jésus promet qu'en lui, on trouve la force de gérer tout ça. Et c'est ce que nous dit ce passage-là. Il confie des choses différentes, certes, mais selon la capacité personnelle de chacun. Il a veillé à ça, ce maître-là. Il n'est peut-être pas si exigeant que ça, au final. Puis, ce maître, il s'en va, comme Jésus. Et celui qui avait reçu les 5 lingots se mit aussitôt à les faire fructifier, de sorte qu'il en gagna 5 autres. Celui qui en avait reçu 2 fit de même et en gagna 2 autres. Alors, il y a des petits mots dans la Bible qui sont super importants. Ce « aussitôt », il est capital. Il est capital dans ce verset-là. Ce qui compte, ce n'est pas de savoir que les 2 premiers, ils ont doublé. Ce n'est pas cette question-là. Ce que ce verset-là, il veut nous montrer, c'est que aussitôt, ils se sont mis en marche. Aussitôt, ils ont obéi. La même manière que quand Jésus est allé voir Pierre qui était en train de pêcher avec son frère, ils ont pêché toute la nuit, etc. Et puis Jésus les appelle, viens, je te ferai pêcheur d'hommes. On retrouve ce même mot, aussitôt. Ils laissent tout et ils suivent. Et ce aussitôt, les amis, c'est une disposition de cœur. C'est de dire, quelle est ma priorité? Quelle est ma priorité? Qu'est-ce que je mets en premier? Christ. Christ en premier. Aussitôt, je me mets en marche. Aussitôt, je fais fructifier. Aussitôt, je ne remets pas à demain. Je ne fais pas passer d'autres priorités de ma vie avant. Et on va y revenir sur le suivant. Donc, c'est une disposition de cœur. Hein ? Quant à celui qui n'en avait reçu qu'un, il s'en alla creuser un trou dans la terre pour y cacher l'argent de son maître. Il y a des gestions meilleures que ça, il me semble. J'aurais au moins placé ça à la banque, effectivement, et puis ils en parleront après. J'aurais à minima fait quelque chose comme ça. Je ne sais pas si vous savez combien représentait un talent ou un lingot. Là. Ça représentait 10 années de salaire d'un ouvrier. C'est-à-dire que même celui qui avait reçu un seul, on peut se dire, quelque part, c'est le serviteur qui a été négligé par le maître. Lui, il n'en a reçu qu'un seul. On rigole. Il a reçu 10 ans de salaire. 10 ans de salaire d'un ouvrier. C'est énorme. C'est colossal pour l'époque. Colossal. Est-ce que ça, je vais l'enterrer? Est-ce qu'une fortune pareille, je vais la mettre en terre pour pouvoir dire quand le maître revient, hop, je recreuse un peu et je te rends ce que tu m'as donné. Le fait d'enterrer, à l'inverse du aussitôt, je mets en priorité, le fait d'enterrer, c'est un signe de désobéissance. On va le voir après, le maître, il n'a pas confié un dépôt à garder, il a confié quelque chose à faire fructifier. Et donc, il y a un signe de désobéissance de la part de ce serviteur-là, de mettre en terre, d'enterrer, de cacher, de garder secret ce que le Seigneur lui avait confié, ce que son maître, pardon, lui avait confié. C'est un signe de désobéissance. De la même manière que le « aussitôt » est un signe d'obéissance et que la félicitation qui vient n'est pas sur le fait qu'il y a eu du résultat, elle est faite sur le fait qu'il y a eu une disposition de cœur du « aussitôt, je me mets en marche ». Lui, il désobéit. Donc on continue. Longtemps après, le maître de ses serviteurs revient, comme Jésus. Hein, on sait qu'il va revenir. On en a parlé ce matin encore, on l'a chanté. Et il leur fit rendre des comptes de leur gérance. Alors, d'une manière ou d'une autre, on doit rendre des comptes de notre gérance. La question, c'est de quoi on doit rendre des comptes? Quelque part, on est toujours redevable de l'autorité qui nous est confiée envers celui qui nous a confié une autorité. Et on a un Dieu d'amour, on l'a dit ce matin, mais on a aussi un Dieu qui est absolument juste. On a un Dieu qui écrit l'histoire et on a un Dieu qui a choisi d'écrire l'histoire avec nous. On a un Dieu qui a choisi de faire des dons aux hommes pour le corps, pour le service de l'autre, pour que le royaume de Dieu se répande sur la terre. Les dons que Dieu fait aux hommes ne sont pas pour les hommes. Les dons que Dieu fait aux hommes sont pour sa gloire, pour qu'il soit glorifié. Et donc on est redevable quelque part devant Dieu, de ça, On verra un peu plus loin comment on en est redevable. Mais on est redevable de ça. Si les ministres sont redevables de l'autorité qui leur est confiée, un président est redevable envers son pays du fait d'avoir été élu, du fait qu'on ait donné notre voix à cette personne-là, ou même si on ne l'a pas donnée. Dans tous les cas, le système démocratique fait que cette personne-là a été élue. Il est redevable envers notre pays des décisions qu'il prend. Des décisions qu'il prend. Un patron n'est pas redevable envers ses employés, de la société qu'il a créée et dans laquelle il a embauché des employés. Il n'est pas redevable. L'autorité, il l'a, lui. Et on n'est pas appelé à être des patrons de nos vies. On n'est pas appelé à être des patrons. On n'est pas appelé à se comporter comme des patrons. On n'est pas appelé à être uniquement autoritaire et tout décider selon nos propres désirs, nos propres intentions, notre propre intellect, ce que nous avons dans notre cœur. Nous sommes redevables. Et ça, c'est hyper important. Et moi, je suis rassuré. Je ne veux pas que ça nous mette une pression ce matin. Moi, je suis rassuré de me dire que je suis redevable du Dieu d'amour dont on a parlé ce matin. Je ne suis pas redevable envers un Dieu gourou, un Dieu colérique, irritable. Dieu se met en colère certaines fois, oui. Dieu peut aussi se mettre en colère. Mais Dieu est essentiellement bon, essentiellement aimant. Et si je dois être redevable de quelqu'un, de l'autorité qui m'est confiée, des dons qui me sont donnés, de ce que j'ai entre les mains et de ce que je dois faire dans la vie aujourd'hui, quelle voix j'ai dans ce monde en tant que chrétien, en tant que lumière, en tant que sel sur cette terre, je suis redevable de ça envers un Dieu qui m'aime d'une manière au-delà de tout. Donc celui qui avait reçu les 5 lingots, quand le maître se revient. Celui qui avait reçu les 5 lingots se présenta, apportant les 5 lingots supplémentaires qu'il avait gagnés. « Maître, dit-il, tu m'avais remis 5 lingots, j'en ai gagné 5 autres, les voici. » « Très bien, lui dit son maître, tu es un bon serviteur en qui l'on peut avoir confiance. Tu t'es montré fidèle en peu de choses, c'est pourquoi je t'en confierai de plus importantes. Viens partager la joie de ton maître. » Celui qui avait reçu les 2 lingots se présenta aussi et dit « Maître, tu m'avais remis 2 lingots, j'en ai gagné 2 autres, les voici. » « Très bien, lui dit son maître, tu es un bon serviteur en qui l'on peut avoir confiance. Tu t'es montré fidèle en peu de choses, c'est pourquoi je t'en confierai de plus importantes. Viens partager la joie de ton maître. » Waouh. Qu'on s'arrête là-dessus. La fidélité, les amis, elle est récompensée. On saute souvent vite à la fin. Où il y a une sentence qui est prononcée. Mais arrêtons-nous là. Arrêtons-nous sur la fidélité de Dieu et sur le fait que Dieu récompense la fidélité. Dieu récompense le fait qu'on l'honore. Dieu récompense le fait qu'on soit fidèle. Il promet, comme dans Jean 15, que sa joie sera en nous. Et la joie du Seigneur, que dit la parole sur la joie du Seigneur ? Elle est une force. La joie du Seigneur est une force dans nos vies. Il y a du coup un principe qui se dessine dans ce passage. La fidélité dans ce que j'ai conduit à recevoir la joie, à entrer dans la joie du Maître. La joie du Maître, c'est ma force. C'est une force pour moi et qui me permet derrière, de rentrer dans cette promesse de progression qui est donnée, de dire « je t'en confierai plus ». Parce que si on se dit qu'au départ, le maître a confié à ses serviteurs en fonction de ce qu'ils étaient capables de porter, on peut se dire « tu as été fidèle là-dedans, je t'en confierai davantage, je vais être écrasé d'en porter plus ». Si tu as estimé que je pouvais porter 5 talents, c'est que je ne peux pas en porter plus que ça. D'accord ? Mais si. Si, parce qu'il y a une promesse dans le fait que je suis fidèle dans les petites choses que Dieu me confie aujourd'hui, Dieu se réjouit. Et sa joie en moi est une force pour pouvoir grandir, pour pouvoir gagner en stature, gagner en autorité, gagner en maturité et être capable de porter davantage demain. L'objectif n'est pas de porter davantage, mais c'est juste une conséquence. Bon et fidèle serviteur, tu as été fidèle en peu de choses, je t'en confierai de plus grandes. Parce que c'est la volonté de Dieu que nous brillions de plus en plus fort dans ce monde. La volonté de Dieu, c'est que nous portions un fruit abondant si nous sommes attachés à lui. Si le sarment est attaché, il n'y a pas juste une promesse de fruit, il y a une promesse de fruit abondant. Notre Dieu est large, notre Dieu est abondant. Et ne le mettons pas dans une petite boîte. Soyons fidèles avec la petite boîte que nous avons aujourd'hui. Mais croyons aussi que cette boîte, elle grandit, elle s'élargit, que notre cœur s'élargit, que nos épaules s'élargissent, que nous gagnions en stature, que nous gagnions en autorité dans ce monde. Tout à l'heure, on a prié par rapport à la Suède, dans le groupe où j'étais, pour la voix la voix des églises, la voix des chrétiens dans ce pays, parce que c'est ô combien important que nous soyons le sel de cette terre, ô combien important que nous soyons la lumière dans ce monde. Et Seigneur, amen si aujourd'hui je suis une petite bougie. Mais gloire à toi si demain je peux être un phare. Je ne veux pas être une bougie toute ma vie. Je veux être un brasier ardent, Seigneur. Je veux que tu élargisses mes capacités. Je veux que tu me fasses grandir, Seigneur. Je veux être trouvé fidèle dans ce que tu m'as confié. Recevoir ta joie, Seigneur, comme une force dans ma vie et grandir. Quelle promesse liée à notre fidélité. On a parlé de la fidélité de Dieu ce matin, il y a eu une parole là-dessus. Et notre fidélité en retour est importante. Enfin, celui qui n'avait reçu qu'un lingot vint à son tour et dit « Maître, je savais que tu es un homme dur. Tu moissonnes là où tu n'as rien semé, tu récoltes où tu n'as pas répandu de semences. Alors j'ai pris peur. » Et je suis allé cacher ton argent dans la terre. Voilà, prends ce qui t'appartient, au moins il lui rend. Mais son maître lui répondit, vaurien, fainéant, tu savais que je ne moissonne là où je n'ai rien semé et que je récolte là où je n'ai pas répandu de semences. Eh bien, tu aurais dû placer mon argent chez les banquiers. Ben voilà, on y arrive. Et à mon retour, j'aurais récupéré le capital et les intérêts. Et là, cette parole dure, qu'on lui retire donc le lingot. Et qu'on le donne à celui qui en a déjà 10. Car à celui qui a, on donnera encore, et il sera dans l'abondance. On retrouve cette abondance, vous remarquerez. Mais à celui qui n'a pas, on ôtera même ce qu'il a. Quant à ce vaurien, jetez-le dans les ténèbres du dehors, où il y aura des pleurs et d'amers grincements. D'amers regrets, pardon. Des grincements ou des regrets. C'est la même chose que ces sarments. Qu'on les coupe. Qu'on les jette, qu'ils se dessèchent, qu'ils soient brûlés. C'est la même chose. C'est la même chose. Et ce n'est pas une rétribution. Ce n'est pas la rétribution de Dieu, les amis. Ce n'est pas ce que le maître voulait. Et si je fais le parallèle entre Jésus et le maître dans ce passage-là, non, Jésus ne nous parle pas comme ça. Le Père ne nous parle pas comme ça. Le Père ne nous dit pas « Vaut rien, fainéant !» Non, non. Par contre, le Père est triste si je refuse sa présence, si j'avance juste par mes propres forces, si je m'écarte de sa bénédiction. Il libère tellement de choses pour nous, jour après jour. La force dont on a besoin, l'espérance, l'amour. Mais si je me tiens en dehors de ça, je ne peux pas en profiter. Et la conséquence, c'est que je me dessèche. Je me dessèche. C'est intéressant de voir que ce serviteur, il connaissait son maître. Il savait que c'était un maître qui moissonne là où il n'a pas semé, qui récolte là où il n'a pas répandu de semences. Quelque part, il savait que c'était un maître qui attendait qu'on multiplie. Il le savait. Il savait que son maître ne lui avait pas confié simplement un dépôt qu'il devait garder. Voilà, je suis le gardien du lingot, et vous ne passerez pas. Je suis le gardien du lingot, et à la fin des temps, je devrais juste rendre ce lingot parce que c'est un dépôt que Dieu m'a confié, et je dois le garder. Non, il connaissait son maître. Il savait qu'il n'avait pas reçu un dépôt à garder, mais un capital à faire grandir, hein, comme au Monopoly. On a dit, hein, c'est Dieu Monopoly dans cette parabole. Et Jésus nous appelle lui-même aussi à des œuvres plus grandes que lui. Il le dit lui-même. Il ne nous a pas dit, voilà, j'ai tout fait. Il a dit, tout est accompli. Et il ne nous a pas dit, je vous laisse ce dépôt-là, et puis vous devez le garder. Vous devez garder ma parole. Vous devez rester là tranquillement à recevoir ce que j'ai fait, ce que j'ai donné. Non, il nous appelle à multiplier, il nous appelle à faire des œuvres plus grandes que lui. Jésus pense multiplication. Quand nous pensons gestion, protection, moi, Jésus pense multiplication au dehors. Pierre, sors de la barque, viens me rejoindre. Reste pas juste là, enfermé dans ce truc où il y a du sol palpable sous tes pieds. Viens, viens dans l'eau, viens me rejoindre. Et Pierre a marché sur l'eau. Et Paul nous encourage de la même manière. Il nous dit de courir vers le but. Il nous dit de grandir en stature, en autorité. Hein, on n'est pas là pour gérer un dépôt statique de ce que Dieu nous a donné. Et c'est intéressant de voir que ce serviteur dit « j'ai pris peur ». Et j'aimerais qu'on s'arrête juste 5 minutes là-dessus. Qu'est-ce qui peut nous faire peur? Qu'est-ce qui peut nous empêcher aujourd'hui de faire fructifier ce que Dieu nous a confié? Qu'est-ce qui peut m'empêcher ça? On voit que là, il y a un serviteur qui en a été empêché. Pourquoi il en a été empêché? Qu'est-ce qui lui a fait prendre peur? Est-ce qu'il avait peur de perdre une partie de sa vie? S'il a passé en premier à s'occuper de ce que son maître lui avait confié. Quelque part, hein, on a tous des priorités dans la vie. Est-ce que ça me fait peur de prendre une responsabilité? Est-ce que ça me fait peur de faire fructifier ce don que Dieu a mis en moi? Parce que quelque part, ça va venir grignoter le temps que je consacre sur plein d'autres choses. Ça peut être une réalité, ça peut être une peur. Ça peut être quelque chose qui nous empêche aujourd'hui de rentrer pleinement dans ce que Dieu nous appelle à être. Mets-moi en premier dans ta maison. Mets-moi en premier dans ta maison. Aussitôt. Donc ça peut être une peur. Il y a une autre peur, c'est la deuxième dont je parlerai, la peur de ne pas être capable. Peut-être tout simplement que ce serviteur, il se sentait incapable de faire fructifier. Mais ce n'est pas la vision que son maître avait de lui. Son maître lui a confié quelque chose selon sa capacité personnelle. Donc le maître savait que ce serviteur serait capable de faire fructifier. Il savait que ce serviteur serait capable de faire grandir, sans problème. Mais peut-être lui a eu peur. Peut-être lui n'a pas compté sur ce que Dieu lui avait donné en capacité. Peut-être qu'il ne se voyait pas comme ça. Et si c'est notre cas aussi ce matin, ben je nous encourage à nous laisser renouveler par ce que le Père dit de nous. À nous laisser renouveler par toute la confiance qu'il nous fait, à nous laisser renouveler par le fait que sans hésitation, il nous confie, sans hésitation, il nous donne. Tout cadeau parfait, tout don excellent vient du Père des Lumières. Il n'y a aucune ombre de variation, aucun changement en lui, mais il donne, il nous donne, il donne, il a confiance. Et si le Dieu des cieux a confiance de déposer quelque chose dans mon cœur, de déposer quelque chose entre mes mains, alors moi, est-ce que j'ai le droit de douter de ça? Si lui dit « ça, tu peux en faire quelque chose avec ma force », alors je dois le croire. Et il y a des mensonges dans nos vies vis-à-vis de nos priorités, il y a des mensonges dans nos vies vis-à-vis de nos capacités que nous devons dénoncer à la lumière de ce que le Père dit de nous et de ce que le Père dit de lui. Je suis le premier dans ta vie et tu es capable. Ce sont deux choses importantes. Dans cette parabole. Et il y a autre chose qui doit nous libérer aussi, c'est que Jésus, il affirme que le fruit, il ne dépend pas de nous. Jésus affirme que le fruit, il dépend du cep. Il ne dit pas « je t'ai confié de la sève en tant que cep, puis maintenant c'est à toi de porter du fruit. » Non. C'est parce que nous sommes greffés, attachés, parce que la sève continue d'alimenter le sarment, que le sarment porte du fruit. Et c'est quand le sarment n'est plus attaché au cep, c'est à ce moment-là qu'il ne porte plus de fruit. Et ce que Jésus nous promet, c'est que le fruit ne dépend pas de notre capacité personnelle, Le fruit ne dépend pas du fait que ce serviteur, il était capable ou non. Le fruit dépend de savoir si ce serviteur, il était capable de se greffer à ce que son maître était, de se greffer au cep. Est-ce qu'il était capable de se nourrir de la force, de l'énergie de son maître pour pouvoir fructifier, pour pouvoir porter du fruit. Et le reproche qui est fait pour cette personne-là, c'est quelque part la désobéissance ou l'incrédulité vis-à-vis de ce qu'il était capable de faire, vis-à-vis des biens qui lui étaient confiés. Et ce n'est pas le manque de résultats. Dieu ne nous reprochera jamais le manque de résultats. Jamais. Ne cherchons pas le résultat dans nos vies. Cette parabole-là, d'ailleurs, vous voyez, le 5 plus 5 ou 2 plus 2 s'est mis au même rang. Le maître félicite de la même manière. Et Dieu ne nous challenge pas ce matin pour dire « Il faut que tu aies plus de résultats !» Non. Le fond du fond, c'est « Attache-toi à moi. Sois fidèle dans ce que tu as entre les mains et fais-le fructifier. Ne le cache pas en terre. » On l'a déjà dit tout ça, mais vraiment ce que je voudrais qu'on retienne ce matin, c'est que ce n'est pas simplement le fait d'être attaché au cep qui fait que miraculeusement je vais porter des fruits. Je dois aussi être conscient de quel fruit je porte. Qu'est-ce que Dieu m'a confié ? Est-ce que j'ai une capacité pour prêcher ? Est-ce que j'ai une capacité pour aller évangéliser ? Est-ce que j'ai une capacité pour prophétiser sur des gens, pour discerner des choses ? Est-ce que j'ai une capacité pour ouvrir ma maison, pour accueillir ? Est-ce que j'ai une capacité pour encourager ? Les dons sont extrêmement variés. Extrêmement variés. Et la question, c'est de savoir qu'est-ce que j'ai aujourd'hui entre les mains. Aujourd'hui, je me sens simplement capable de sourire et d'accueillir. Gloire à Dieu. Souris, accueille, encourage. Bon et fidèle serviteur, je t'en confierai de plus grandes. Commence par là. Commence par faire fructifier consciemment, en étant planté en Christ, ce que Dieu a mis entre tes mains. La peur du serviteur, elle a été plus grande que le fait d'honorer son maître. Il le connaissait, mais il a refusé de respecter ce que son maître était, un maître qui voulait la multiplication. Et moi, je ne veux pas me retrouver comme ça. Je vais finir avec ça. En parallèle de tout ça, pour finir avec cette parabole, en parallèle de tout ça, il y a un verset dans 1 Pierre 4, versets 10 et 11, qui nous dit ceci, parce que là on a parlé d'autres personnes, mais la question c'est de savoir qu'est-ce que nous on a reçu. Chacun de vous a reçu de Dieu un don de la grâce particulier, qu'il l'exerce au service des autres comme un bon gérant de la grâce infiniment variée de Dieu. Que celui qui parle transmette les paroles de Dieu. Que celui qui sert accomplisse sa tâche avec la force que Dieu donne. Agissez en toutes ces choses de manière à ce que la gloire en revienne à Dieu par Jésus-Christ, à qui appartient la gloire et la puissance pour l'éternité. Chacun de vous a reçu un don de la grâce particulier. Les dons sont variés. Est-ce qu'on a reçu 1, 2, 5 lingots, 10, 15, 30 ou la moitié d'un ? Peu importe, mais on a reçu. C'est ce que dit ce verset. Chacun de vous a reçu un don particulier de la grâce. Et donc, qu'il l'enterre ? Non. Qu'il l'exerce pour lui-même ? Non. Au service des autres, comme un bon gérant. Nous sommes appelés des bons gérants lorsque nous nous mettons en marche avec les dons que Dieu nous a confiés. Des bons gérants de la grâce infiniment variée de Dieu. Et ça nous parle de l'autorité qui nous est confiée. Je disais tout à l'heure, est-ce que je veux être une bougie ou est-ce que je veux être un phare ? Est-ce que je veux être une toute petite braise ou un immense brasier ? Seigneur, que je grandisse alors que tu grandis dans ma vie. Que je grandisse, Seigneur, dans l'impact que j'ai. Que je grandisse dans la gestion de cette grâce que tu m'as faite, infinie, de me donner quelque chose. Quelle grâce ! Quelle grâce! Dieu aurait pu arrêter l'histoire. Il a demandé à Noé de construire une arche. Dieu fait grâce, toujours. Et c'est une grâce de savoir que après Jésus, alors que tout est accompli, il choisit encore de nous utiliser. Il choisit encore de nous donner des dons pour que nous en soyons de bons gestionnaires et qu'il en reçoive la gloire. Alors, quel que soit ce que nous avons reçu, nous sommes appelés à en être de bons gérants, à faire fructifier aussitôt. Et j'aimerais que vous reteniez ce « aussitôt » ce matin. J'ai reçu aussitôt, je vais faire. Aussitôt. Et ça n'a pas besoin d'être de grandes choses. J'ai dit tout à l'heure que le royaume de Dieu n'était pas à nous et les dons ne sont pas à nous non plus. Et Jésus, en fait, il est venu, il s'est livré pour nous à la croix, en rédemption pour nos péchés. Il nous a sauvés par sa vie, par sa mort, par sa résurrection. Il nous a sauvés au travers de tout ça. Mais le salut, ce n'est pas seulement de recevoir cet amour infini. Parce que ça, je suis capable de le recevoir et puis je suis capable de l'enterrer, de le mettre sous terre, pour lui rendre, pour lui dire, quand il reviendra, merci pour ton amour infini. Le salut, ce n'est pas seulement ça. C'est ça, mais ce n'est pas seulement ça. Le salut, c'est aussi donner notre vie et suivre Christ quand il nous dit, toi, suis-moi. Et oui, promet que la marche est légère. Mais dans ce que Jésus a accompli à la croix, ne nous arrêtons pas simplement à l'acte d'amour que Jésus a accompli. Ne nous arrêtons pas simplement au fait que le Père a choisi de sacrifier son Fils, de le ressusciter par la puissance du Saint-Esprit. Ne nous arrêtons pas seulement à ça, parce que sinon ça voudrait dire que tout ça c'est pour nous. Tout ça c'est pour nous. On a dit ce matin, oui, le Père a couru vers celui qui était perdu. Et quand ensuite il s'est trouvé devant, en la personne de Jésus, il lui a dit, maintenant, toi, suis-moi. Tu as voulu suivre ton chemin ? Ok, je fais grâce. Je fais grâce. Tu reviens, moi je reviens vers toi, encore plus que ce que tu ne reviens vers moi. Mais maintenant, on ne s'arrête pas là. On ne s'assoit pas pour faire un pique-nique à cet endroit-là. Et en disant, on fait table rase du passé ou on garde les vieux vêtements. On se souvient de ce qui s'est passé et je te restaure aujourd'hui. Ils ne sont pas restés là. Maintenant, viens. Toi, suis-moi. Et c'est complètement différent. Complètement différent de juste dire, Dieu s'est approché de moi, ou de dire, mais Dieu s'est tellement approché de moi qu'aujourd'hui, je marche avec lui. C'est complètement, complètement différent. Donc les dons qu'on a reçus sont très variés. Nos appels sont différents, nos appels sont complémentaires. Paul nous parle du corps, hein, où il y a des mains, il y a des yeux, il y a des pieds, il y a des organes moins sympas, il en est question, qu'on cache. Nous avons des appels et nous avons des dons complémentaires. Et Daniel nous a invités il y a quelques semaines à faire attention à la comparaison les uns aux autres. Et ce n'est pas un problème qu'on n'ait pas tous reçu la même chose aujourd'hui. Ce n'est pas un problème. Vraiment. Et il n'y a pas de petits dons. Et il n'y a pas de grand don. Quand Paul parle du corps, il est très clair en disant qu'il n'y a pas d'organes négligés qui ne servent à rien, y compris ce qu'on ne voit pas dans notre corps. Si on l'enlève, le corps entier dysfonctionne. Et il n'y a pas de petits dons, il n'y a pas de petits appels. Il n'y a pas de petits appels. Quand Dieu vous appelle, quand Dieu donne, c'est forcément utile, c'est forcément grand, c'est forcément pour les autres. Donc ne nous comparons pas, d'accord ? Ne nous comparons pas, mais courons la course à laquelle Jésus nous appelle. Soyons fidèles dans ce que nous avons reçu. Ne visons pas trop haut, de peur de nous fatiguer, mais ne dénigrons pas non plus ce que nous avons reçu. Soyons justes avec ce que Dieu nous a confié. J'ai parlé beaucoup d'être fidèle, d'être juste avec ce que Dieu nous a confié. La question qui vient maintenant, et on ne l'abordera pas ce matin, c'est mais comment je sais ça ? C'est quoi que Dieu m'a confié ? Qu'est-ce que Dieu m'a donné en fait entre les mains ? C'est quelque chose finalement de vague, c'est quelque chose de... J'ai du mal à voir ou à comprendre qu'est-ce que ça puisse être. Passez du temps avec Dieu. 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 Priez, passez du temps avec lui, demandez-lui, réclamez, Seigneur, parle-moi, parle à mon cœur. quelle capacité j'ai aujourd'hui que je peux mettre à ton service parce que tu me l'as confié. Tu m'as confié cette capacité-là. Des capacités des fois naturelles. On n'est pas seulement dans des dons spirituels, on est aussi dans des capacités totalement naturelles. Le fait de savoir ouvrir sa maison, accueillir, recevoir et être généreux, ce sont des capacités naturelles, mais qui sont valorisées dans la Bible. On en parle. Peut-être c'est ça aujourd'hui que tu as entre les mains. Fais-le fructifier. Fais-le fructifier. Tu as ton cœur, dans ton cœur d'aller implanter des églises ? Ok. Prépare-toi. Fais fructifier. Multiplie. Va implanter. Va implanter. On a besoin d'églises, d'un essaimage d'églises dans toute notre région. Moi, je prie que dans quelques années, on ait multiplié par 2, 3, 4 les églises autour de nous. Qu'est-ce que tu as aujourd'hui ? Le seul moyen de le savoir, c'est de le demander. Papa, qu'est-ce que tu as mis entre mes mains ? Qu'est-ce que tu m'as confié dont tu as estimé que j'étais capable de le gérer ? Et agissez en toutes ces choses, de manière à ce que la gloire en revienne à Dieu par Jésus-Christ, à qui appartient la gloire et la puissance pour l'éternité. Mon appel ne m'appartient pas. Le don ne m'appartient pas. Le fruit ne m'appartient pas. Tout est de lui, par lui et pour lui. Alors soyons de bons gestionnaires. Marchons légers. Multiplions avec fidélité en marchant aussitôt avec ce que Dieu met sur nos cœurs. Soyons prompts à faire du bien, soyons prompts à nous aimer, soyons prompts à nous inviter, soyons prompts à nous encourager, soyons prompts à évangéliser, soyons prompts à louer Dieu, soyons prompts à prier les uns pour les autres. Et les comptes que nous rendrons ne sont pas sur le résultat qu'on aurait eu dans notre vie. Ils seront simplement sur le fait d'être attaché au CEP. Est-ce que je suis attaché à Christ ou pas ? En définitive, c'est la seule chose. C'est la seule chose sur laquelle nous rendrons des comptes. Est-ce que je suis attaché à Christ ? Est-ce que j'honore le Fils pour ce qu'il est ? Le Dieu qui a reçu toute autorité, à qui ma vie a été donnée parce qu'elle a été rachetée par le Père. Est-ce que je suis attaché à Christ de cette manière-là ? C'est là-dessus. C'est sur cette seule chose que je rendrai des comptes. Alors oui, Jésus, je vais être attaché à toi. Oui, je veux te suivre. Oui, je veux faire grandir. Je vais te trouver fidèle dans la gestion de ce que tu me confies. Sans avoir peur. Sans avoir peur. Dieu fait grâce de l'erreur. Mais si j'enterre les choses, elles ne porteront jamais de fruits. Et je préfère faire des erreurs en étant attaché à Christ que d'enterrer ce qu'il m'a donné par peur de mal faire. Nous avons tous reçu quelque chose. Faisons-le fructifier. Faisons-le fructifier, les amis. Amen. Amen.